Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Regard Pluriel. Le sujet du jour est l'EMDR. La personne que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui est Béatrice Horner, psychopraticienne formée en analyse transactionnelle, EMDR, hypnose et PNL. Alors Béatrice, bonjour.
Bonjour Katia.
Alors je tenais tout d'abord à te remercier très chaleureusement pour ta participation aujourd'hui donc à cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu accepterais de te présenter aux auditeurs et auditrices et de nous dire qui tu es en quelque sorte ?
Alors un grand merci à toi également pour ton invitation. Et comme tu viens de le dire, je suis psychopraticienne installée sur la commune de Franqueuil, entre Loches et Amboise. Alors tout d'abord, j'aimerais te dire quelques mots sur l'analyse transactionnelle. Cela nous permettra de faire le lien avec le MDR.
D'accord.
Donc l'analyse transactionnelle est une approche complète de la psychothérapie fondée par Eric Berne, qui était un psychiatre américain. Il a développé deux notions qui sont importantes parmi tant d'autres. Tout d'abord, celle de l'enfant intérieur, dont tu as déjà certainement entendu parler. Cette partie enfant en nous, en fait, qui a gardé la mémoire émotionnelle de tout ce qu'il a vécu et qui, dans son adaptation, continue à réagir au présent, mais sur la base des schémas du passé. Ce qui m'amène à un autre concept tout aussi important de l'analyse transactionnelle, celui du scénario de vie, avec notamment certains schémas mentaux qui sont essentiellement des schémas en termes de croyances que l'on met en place dès l'enfance et qui nous amènent à recommencer toujours les mêmes erreurs, même si celles-ci ne nous conviennent pas.
Donc on a envie en fait d'en savoir plus. Concrètement, comment est-ce que tu fonctionnes ?
Alors en fait, tout d'abord, je prends le temps de faire l'anamnèse, c'est-à-dire d'explorer l'histoire de la personne, de comprendre quelle est sa demande, son attente, et ce qui lui pose problème aujourd'hui dans sa vie. Ensuite, en fonction de sa demande et de sa problématique, je vais proposer de travailler dans une certaine direction, toujours en coopération avec elle.
Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel moment et dans quelle situation tu pourrais être amené à appliquer et utiliser le MDR ?
Alors, à partir du moment où on a identifié la problématique et les expériences passées qui sont les racines du problème et qui amènent des perturbations émotionnelles du style angoisse, cauchemar, somatisation, dépression, addiction, phobie.
D'accord. Alors pour que
Par exemple,
d'accord. Et pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien de quoi il s'agit, eh bien, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'EMDR ?
Alors, l'EMDR, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Alors, je ne vous le citerai pas en anglais parce que mon anglais est très mauvais, mais la traduction française, c'est désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Et on reviendra un peu plus tard sur la désensibilisation et le retraitement. Alors, l'EMDR est une approche psychothérapeutique créée en 1987 aux États-Unis par une psychologue qui s'appelle Francine Shapiro sur son observation empirique de l'effet des mouvements des yeux sur le traitement émotionnel et cognitif. Donc, il paraît qu'elle regardait des oiseaux et les allers-retours et elle s'est rendue compte que ses pensées, qui étaient des pensées un peu négatives, en fait, n'étaient plus du tout les mêmes après avoir fait ces allers-retours avec les mouvements oculaires. En fait, cette thérapie donc, qui utilise les mouvements oculaires, on sait aujourd'hui que pendant le sommeil, ces mouvements apportent l'assistance nécessaire au système naturel de guérison du cerveau, qui habituellement fait évoluer ce qui nous a perturbés vers des réseaux mnésiques, c'est là où sont conservés les souvenirs, dans des réseaux mnésiques donc adaptés. En fait, c'est un peu comme le corps qui a la capacité à se guérir quand on a une blessure. Tant que celle-ci n'est pas trop grave, le corps répare. À partir du moment où la blessure devient trop importante, ou la pathologie trop importante, on a besoin d'un médecin, d'un chirurgien, on a besoin d'une aide extérieure. Mmh. Et là, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Donc, on peut obtenir des résultats en EMDR avec d'autres formes de stimulation que les mouvements oculaires. Ça peut être par le système auditif, ou alors ce qu'on appelle des tapotements alternés, qu'on appelle du tapping. Parce que pendant la nuit, c'est pareil, le système auditif est stimulé et on a également des petites contractions musculaires au niveau superficiel de la peau. Donc, on peut travailler de ces différentes manières en sachant que les mouvements oculaires sont quand même privilégiés sur le travail. On va également travailler sur trois volets temporels. Le présent, c'est-à-dire qu'on va devoir comprendre dans les situations problématiques actuelles ce qui active la perturbation, donc l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans le présent et qui m'empêche d'avancer ? On va travailler sur le passé. On va donc identifier les expériences passées qui sont la racine du problème. Par exemple, j'ai eu une personne qui a du mal à communiquer en groupe, qui se trouve inintéressante et avec la peur de se mettre en avant. Quand on identifie les expériences passées, on se rend compte que ses parents travaillaient beaucoup, que cette personne était souvent seule, elle ne partageait, il n'y avait pas de communication en fait, et très peu d'amis à la maison, voire pas du tout. On va également identifier les croyances négatives qu'elle a posées sur elle-même au niveau identitaire. Par exemple, je ne gagne pas à être connue, je suis transparent, je ne suis pas important. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va avoir le protocole et on va arriver à une perception complètement différente et où la personne va pouvoir mettre des cognitions positives. J'ai de la valeur, je suis digne d'être aimée, j'ai des qualités. Et vraiment avec le désir de prendre soin d'elle et d'aller vers les autres. Et à partir de là, on fait une projection dans le futur, libérer des problèmes. Comment la personne s'imagine dans le futur avec ces nouvelles cognitions qui sont installées.
Très bien. Et donc, quels sont en fait les effets de l'EMDR d'un point de vue très, très concret ?
Alors, c'est une technique qui fonctionne selon un protocole spécifique, voire des protocoles. Ça permet de désensibiliser, de retraiter le réseau traumatique, on en parlait tout à l'heure. Elle déclenche aussi un état physiologique, qui facilite le retraitement de l'information. Donc, désensibiliser et retraiter, ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que les événements traumatiques sont reconsidérés. Le patient va avoir une autre vision et une compréhension plus adaptée de l'expérience pour les faire basculer dans le passé. Les croyances et les images et les émotions négatives deviennent moins vives et moins valides. Par exemple, on va prendre un exemple un peu extrême, une femme qui a été violée va pouvoir se dire sur elle-même « c'est de ma faute, j'ai honte ». J'ai peur et les images du viol vont être récurrentes. À la fin du travail en EMDR, elle pourra se souvenir du viol sans peur et honte et en se disant à la place de ses croyances négatives qu'en fait, elle a très bien réagi, qu'elle a réussi à rester en vie et que finalement, je suis une femme solide et résiliente. Et elle n'aura plus ces images de manière intrusive. De plus, dans une autre partie de notre cerveau, on a déjà la plupart des informations dont on a besoin pour résoudre nos problèmes. Et ces deux parties qui ne pouvaient pas se connecter peuvent à présent le faire.
Donc tu as parlé de cet exemple particulier. À qui s'adresse le MDR, donc de manière plus globale ? Moi, j'ai envie de te poser la question de savoir si les enfants peuvent, par exemple, en bénéficier.
Oui, tout à fait. La thérapie EMDR s'adresse à toute personne, de l'enfant à l'adulte, qui souffre de perturbations émotionnelles, donc généralement liées à des traumatismes psychologiques. Donc il peut s'agir de traumatismes avec un grand T, mais il peut également s'agir d'événements de vie difficiles ou de traumatismes avec un petit T, mais qui peuvent être la source d'émotions ou de comportements inadaptés ou même excessifs dans la vie quotidienne.
Oui, c'est vrai que moi, en psychogénéalogie, je m'en rends compte. Ce qui ne semble, pour la majorité, peut-être pas être un traumatisme, peut l'être pour la personne en fait en question, comme la disparition d'un animal, par exemple, à qui on est très attaché, qui partage donc notre quotidien. Et c'est vrai que je pense que moi, je pose maintenant la question de savoir quel événement, heureux ou douloureux, avez-vous donc vécu ? Comme ça permet en fait à la personne d'y mettre ce qu'elle veut. Parce que c'est vrai que dans les traumatismes, il y a certaines personnes qui me disaient « mais moi, je n'ai pas vécu de traumatisme ». Et je trouve que c'est très intéressant que tu soulignes ça parce que ça fait quand même bien la différence. Et au moins, on sait de quoi on parle. Parce que le traumatisme, tout le monde n'y met pas la même chose.
Exactement, exactement.
Alors donc, Béatrice, en quoi, comment et pourquoi l'EMDR est-il donc efficient, on va dire efficient ?
Oui, tout d'abord, il faut savoir que les souvenirs sont regroupés. Par exemple, vous faites l'expérience du chien une première fois dans votre vie. Vous allez renouveler l'expérience du chien. Elle va venir enrichir au fur et à mesure cette première expérience. Donc en fait, le traitement d'un seul souvenir se généralise à d'autres souvenirs dans le même réseau neurophysiologique. Il est donc important de travailler directement à la cause, à l'événement source qui résonne avec la situation présente perturbante. Donc les mouvements oculaires vont apporter l'assistance nécessaire au système naturel de guérison dont on parlait tout à l'heure, pour qu'il achève ce qu'il n'a pas pu faire sans son aide. Donc il arrive parfois que ce système soit submergé par un événement douloureux, tu en parlais tout à l'heure, et qui peut devenir traumatisant. Soit parce que l'événement l'est trop, exemple un viol, la mort d'un enfant, ou alors parce que nous sommes particulièrement vulnérables à ce moment-là, incapables de nous protéger. Et à ce moment-là, le traitement ne se fait pas ou mal. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'information reste bloquée dans le système nerveux, et elle reste gravée dans sa forme initiale. Alors l'information, c'est quoi ? Ce sont les images, les sons, les sensations, les odeurs, et notamment les pensées qui vont être mises en place à ce moment-là. Donc les convictions négatives que l'on a sur soi. Par exemple, je ne vaux rien, je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, et tant d'autres. Elles sont alors stockées dans un réseau de neurones qui mène sa propre vie, ancré dans le cerveau émotionnel. C'est comme un paquet d'informations non traitées, figées dans le temps. En fait, c'est vraiment comme une capsule temporelle qui reste bloquée dans le passé, mais qui, à chaque déclencheur, va être réactivée.
Sans que la personne n'en ait forcément en fait conscience.
Tout
c'est bien,
à fait.
C'est bien là, en fait, la difficulté et qui implique, en tout cas, l'intervention d'une tierce personne.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me retrouver devant un patron devant qui je perds tous mes moyens. À chaque fois que je vais rentrer dans son bureau et que je vais le voir, et qu'il va me faire une réflexion en particulier. Et inconsciemment, peut-être que mon père, déjà petite, me faisait certaines remarques. Mmh. Et que cet homme-là me rappelle effectivement mon père, mais de manière complètement inconsciente. Et du coup, je fais un transfert. Mais du coup, je perds mes moyens face à ce directeur. Mmh. Donc, toute expérience, comme je disais tout à l'heure, en fait, liée à l'information de cette capsule de temps peut l'ouvrir, lui faire vivre les mêmes émotions, les mêmes pensées et les mêmes sensations qu'elle a vécues dans sa jeunesse. Et c'est valable, par exemple, pour les traumas avec un grand T. Une femme qui a été violée, par exemple, dans sa jeunesse, va peut-être avoir vraiment retenu, par exemple, l'odeur ou un bruit. Et quand elle va se retrouver tout d'un coup avec le même bruit ou une odeur qui lui rappelle, elle va se retrouver dans un état émotionnel tel qu'au moment de l'événement.
Oui, il y a vraiment cette distinction entre l'événement passé et donc l'événement, ou en tout cas le mot, l'odeur, etc., qui vient réactiver
complètement. Les informations sont vraiment groupées. Donc en fait, une simple odeur peut ramener complètement tout l'événement à la surface. Donc la situation présente n'est pas le vrai problème, mais un déclencheur pour les événements passés non traités. Et comme je me permets de terminer, en fait, comme le disait Francine Shapiro, le passé et le présent, EST.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour quelqu'un qui aurait perdu donc, l'odorat suite à un événement donc, traumatique, est-ce que le MDR pourrait aider ? J'ai en tête une situation comme ça. Est-ce que le MDR pourrait aider à retrouver, en tout cas, la situation origine, finalement, de cette perte de ce sens-là ? Parce que la perte du sens étant liée avec un trauma.
Oui.
On va partir de ce principe-là, parce que j'ai vraiment un exemple en fait en tête, et le sens a été perdu suite en fait à un événement traumatique. Est-ce que le MDR pourrait, par exemple, aider cette personne à retrouver son sens, même si ce n'est qu'une partie?
Alors, c'est difficile à dire. Maintenant, c'est une possibilité, mais sans garantie, sans aucune garantie.
Sans aucune garantie.
Parce que ça dépend de ce que la personne va elle-même amener au cours du processus.
Et comment est-ce qu'une personne peut savoir, elle, de son côté, à quel moment et si elle doit faire appel à l'EMDR ? Puisqu'elle n'a pas conscience de ce lien entre la situation en fait originelle et puis finalement l'émotion en fait vive qu'un autre événement vient réactiver cette émotion donc antérieure. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on a besoin de MDR et si on a besoin de MDR?
Moi, je l'intègre vraiment au niveau de mon suivi thérapeutique. Et quand on voit qu'il y a des choses, effectivement, ben, on parlait de scénarios de vie tout à l'heure, des choses qui sont récurrentes, ou alors effectivement quelque chose de vraiment dysfonctionnel dans le présent. Par exemple, une personne qui a de l'impulsivité. Voilà, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui a amené cette personne et quand est-ce que ça a commencé en termes d'impulsivité. Donc là, on travaille, encore une fois, je propose, voilà, on peut travailler en EMDR si vous le voulez bien, et on travaille de cette manière-là.
D'accord, ok. Donc l'EMDR donc, que tu pratiques s'inscrit dans un suivi psychothérapeutique.
Voilà, tout à fait.
Eh bien, écoute, c'est la fin de cette émission, Béatrice. Merci encore. Donc, je rappelle, Béatrice Horner, psychopraticienne formée en analyse transactionnelle et praticienne en EMDR. Merci également à Léo et Vincent qui étaient à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr. À bientôt.
Merci beaucoup.